Du coup, je comprends pas pourquoi on applaudit avant. Quand on n'a pas entendu parler, on applaudit. Ça encourage, ouais, c'est vrai. C'est vrai, merci. Bien bonjour à ceux que j'ai pas vu hier. Bonjour. Donc voilà, ben Guigui m'a présenté. Enfin, j'ai le droit de dire Guigui ou pas? Oui, ça va. Ouais, parce que moi j'ai l'habitude de l'appeler comme ça, mais je voudrais pas faire de gaffe. Donc je suis très contente d'être avec vous pour aborder ce sujet effectivement qui me tient très à cœur dans ce que je fais à JPC. Ça me tient très à cœur parce qu'avec les années que j'ai passées à JPC, le fait qu'on ait fait beaucoup d'actions avec beaucoup de jeunes dans les rues, notamment à Nancy, on a fait à deux reprises Bouche ta ville et puis plein de camps d'évangélisation sur les plages, puis de voir plein de jeunes qui s'engagent pour annoncer Jésus et que parfois derrière, les choses pouvaient retomber un peu. Ça m'a fait réfléchir à notre démarche d'accompagnement et le fait de se recentrer sur la mission. Alors aujourd'hui et demain, on va parler justement de ce qu'est la mission du disciple. On va parler de l'image qu'on peut en avoir et de la manière dont la Bible nous la présente. Alors c'est vrai que quand on parle de la mission, d'ailleurs si je vous disais mission, quel est le premier mot qui vous vient? Réfléchissez pas trop. La mission, quel mot? Un mot, s'il vous plaît. La mission, un mot. Envoi. Évangélisation. Ouais. Très souvent, on pense à l'évangélisation. Ou alors, à partir très loin dans un pays étranger. Des fois, on associe les deux. Et c'est vrai que quand on pense à l'évangélisation en lien avec la mission, j'entends parfois, même dans le milieu chrétien, hein, est-ce qu'il est encore aujourd'hui nécessaire de proclamer l'évangile? Alors avec tout ce que nous disent nos lois aujourd'hui, ou est-ce que un cadre et une ambiance chrétienne peuvent parfois ne pas suffire? J'entends parfois ça, même dans des milieux chrétiens, et on peut même trouver des passages qui nous font penser ça si on les isole du reste de l'Écriture. On peut parfois se dire, il suffit de vivre la vie chrétienne et ça devrait pouvoir suffire. Moi, pendant des années, j'ai cru que c'était vrai, ça. J'ai cru que je pouvais me contenter d'essayer de vivre une vie chrétienne et ainsi, j'accomplissais la mission du Christ. Mais il y a des passages qui viennent nous dire évidemment le contraire. Je commence avec Romains 10, les versets 13 à 15, donc trois versets vraiment importants. Paul dit, il est écrit, quiconque fera appel à Jésus comme Seigneur sera sauvé. Mais comment faire appel à lui si l'on n'a pas appris à croire en lui et à lui faire confiance? Et d'où viendrait cette foi si l'on n'a jamais entendu parler de lui? Et comment en entendre parler s'il n'y a pas de messager pour proclamer la bonne nouvelle? Et comment la proclamer si personne n'est envoyé? Bon, les premières fois que j'ai lu ce passage, je dis, mais à quoi il joue, Paul? Il fait une question qui renvoie sur une question qui renvoie sur une question. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il nous donne une démonstration logique. Pour que des gens soient sauvés, il faut qu'ils croient en Jésus. Mais pour croire en Jésus, il faut entendre parler de lui et de son œuvre. Et pour entendre parler de Jésus, il faut qu'il y ait des messagers qui proclament la bonne nouvelle et que ceux-ci soient envoyés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Paul, il détaille toutes les étapes. Comme s'il nous disait, c'est comme ça que ça marche. Et dans ce texte, on a particulièrement la notion de proclamer ou prêcher ou annoncer la bonne nouvelle selon les traductions. Mais il y a vraiment cette action d'aller dire cette bonne nouvelle. Du coup, on pourrait facilement penser qu'il suffit de dire l'évangile à des gens autour de nous pour accomplir la mission que Jésus nous demande. Juste en parler pourrait paraître suffisant. Mais si on creuse un peu le texte qu'on vient de lire, eh bien, pour proclamer, Paul dit qu'il faut le faire selon un ordre de mission donné. Je vous lis le verset 15 dans la traduction Parole vivante que j'aime beaucoup. Comment quelqu'un peut-il s'attribuer la charge de proclamer l'évangile s'il n'a reçu aucun ordre de mission? Et le mot ordre de mission, c'est quelque chose de cadré, hein, au niveau professionnel, on sait très bien ce que ça veut dire, c'est la mission que doit faire la personne, les comptes qu'elle doit rendre. Et du coup, la proclamation de l'évangile dont parle Paul, qui est indispensable au salut, s'inscrit dans un ordre de mission, celui que Jésus a donné à ses disciples. Est-ce que vous connaissez la référence où Jésus a donné cette mission? Oui? Oui, allez-y, dites-moi. Oui, quel verset? Matthieu 28, 19 et 20. Je vous lis les versets 19 et 20. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors souvent on dit, ouais, c'est les dernières paroles de Jésus, donc elles ont un poids particulier. Mais en fait, ce ne sont pas que ces dernières paroles. En fait, Jésus a toujours eu ce même projet. Et si on prend ses premières paroles à ses disciples, Matthieu 4, 19, il rencontre quatre pêcheurs au bord d'un lac. Et ce qu'il leur dit, c'est « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». C'est une promesse. Jésus dit « Je vais faire de vous des faiseurs de disciples ». Et puis après la promesse, 3 ans plus tard, après les avoir formés, il va leur dire « Faites à votre tour comme moi j'ai fait avec vous ». Mais tout son ministère est encadré par cette première phrase « Venez avec moi et je vais faire de vous ». Et ensuite, « Allez, faites à votre tour ». Le plan de Jésus était établi dès le début et il n'a pas changé. Jésus appelle, il forme, il équipe. En fait, après, il envoie et tout est centré sur « Faites des disciples ». Donc ça, c'est la mission que Jésus a donnée. Et quand on entend cette mission, ça nous renvoie à la question « Faisons-nous, faites-vous ». Comme Jésus l'a ordonné, des disciples à qui vous apprenez à observer tout ce que Jésus a prescrit. Parce qu'en fait, à ce moment-là, Jésus n'a pas dit « Allez annoncer l'évangile ». Il a dit « Allez faire des disciples ». Du coup, est-ce qu'on assure cette mission que le Seigneur nous a confiée à notre niveau, dans notre famille, dans notre entourage, dans notre Église? Est-ce que cette mission est l'axe central autour de laquelle se construit notre vie chrétienne? Alors c'est vrai, quand on y réfléchit comme ça, la question peut être un peu inconfortable. Si j'avais voulu être encore plus dérangeant, je vous aurais dit « Alors, combien de disciples vous avez fait les 2 dernières années ?» Et là, je crois que ce serait encore plus inconfortable, voire culpabilisant. Mais si c'est le cas, moi je voudrais vous encourager à mettre tout de suite de côté ce sentiment-là. Ce n'est pas l'objectif. La mission, elle n'est pas là pour nous accabler, même si, bien sûr, elle doit nous interroger sur notre pratique. Mais, et pour vous rassurer, hein, on voit que dans l'organisation de l'Église, certaines personnes ont des charges spécifiques, celles de poser les bases, c'est les apôtres. D'autres, de donner des paroles de la part de Dieu, c'est les prophètes. D'autres, de proclamer l'Évangile, les évangélistes. D'autres, d'enseigner, les enseignants. D'autres d'être des bergers, des pasteurs, et on voit cette liste dans Éphésiens 4, 11. Paul dit « Voilà ce que le Seigneur a établi pour le fonctionnement de l'Église ». Donc il y a une vraie organisation, et c'est vrai que dans l'Église, tout le monde ne remplit pas la même fonction, mais Paul poursuit, là je vous ai dit ce qu'il y avait dans le verset 11, au verset 12, il dit « Il a fait donc de ces hommes, donc toutes les fonctions qu'on vient de citer, pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. » Autrement dit, selon Paul, chacun accomplit un service. Personne n'a aucune fonction dans le corps du Christ. Nous participons tous à un ensemble qui pointe vers la mission qui est l'objectif de l'Église, Paul le dit, la construction du corps de Christ. Et forcément, hein, on le lit très facilement à ce que nous dit Jésus en Matthieu 28, faire des disciples. Construire le corps du Christ, c'est faire des disciples et les édifier. Et si on veut répondre à ce que Jésus demande en Matthieu 28, et puis dans tout son discours, il faut que ce soit notre intention de départ. Il faut qu'on se dise, je veux obéir à ce que Jésus demande. Je veux m'engager dans le fait de faire des disciples. Et si individuellement, peut-être on n'assure pas toute la mission de A à Z, en tout cas ce qui est sûr, c'est que chacun, pour notre part, on participe tous à cette grande mission et unique mission, faire des disciples et les enseigner. Et si pour nous cette base n'est pas claire, si je ne me dis pas que je suis appelé à le faire et que je m'engage là-dedans, ben forcément la construction ne sera pas solide. Et forcément le résultat ne sera pas là. Moi pendant des années, même quand j'étais déjà à JPC, je faisais beaucoup d'accompagnement avec les jeunes, mais sans cette optique de le faire pour faire des disciples. Je me disais, je passe du temps avec eux, on va au groupe de jeunes, parfois on lit un peu la Bible, on prie, mais je n'avais pas plus d'objectif que ça. Et au final, ben ça n'a rien donné puisque je n'avais rien prévu. Je ne faisais qu'alimenter des choses, et tout simplement j'avais besoin de réaliser que je devais devenir un disciple, qui automatiquement est un faiseur de disciples, et que je suis toujours en formation. Et comme je n'avais pas cet objectif, ben forcément, j'avais beaucoup moins de chances de réussir. Et c'est vrai qu'on peut se tromper sur ce que représente la mission. On va regarder une petite vidéo qui s'appelle « Voici faire des disciples ». Une petite vidéo d'animation, et je vous encouragerai peut-être à la... Vous la trouverez sur YouTube, vous pourrez l'utiliser aussi. J'aime bien la phrase de la fin, c'est cela l'Église. Mais c'est vrai que peut-être notre contexte actuel, avec les préoccupations de notre vie chrétienne, c'est parfois avoir une Église, entretenir la vie d'Église, peut-être le bâtiment, peut-être avoir un bon groupe de louanges, puis évidemment aussi travailler à notre sanctification, faire du bien. Alors tout ça, évidemment, c'est utile, hein, et ça plaît à Dieu, mais ça ne peut pas être déconnecté de la mission. Et je pense qu'on doit apprendre à reconsidérer la mission. Parce que si on a l'habitude de lire le passage de Matthieu 28, les versets 18 à 20, on a parfois tendance à oublier que dans la bouche de Jésus, aller, ben c'est pas une option, c'est pas une proposition, c'est un ordre donné à chacun de ses disciples. Parce que si l'Église n'accomplit plus sa mission, est-ce qu'elle est toujours l'Église selon Christ ? Vous savez, l'Église devrait être connue, selon ce que Jésus a dit, hein, pour sa capacité à faire des disciples. Vous savez, si on pense à, par exemple, un corps d'élite dans l'armée, les commandos spéciaux, eux, ils sont connus pour leur efficacité, ils sont connus pour leurs interventions, ils sont connus pour des choses très pointues. Et en fait, ce n'est pas la beauté de leur uniforme ou une chorégraphie spéciale commando qui les fait connaître. C'est leur efficacité parce qu'ils ont été faits pour ça. C'est leur force de frappe. Du coup, de même pour nous, si on veut endosser le nom de disciple de Jésus, pardon, j'ai perdu ma ligne. Si on veut endosser le nom de disciple, on doit être occupé dans notre quotidien à faire des disciples et être reconnu pour ça. Alors la question est simple pour nous, hein, si on se considère comme chrétien, c'est est-ce que nous aimons Jésus et est-ce que nous avons choisi de le suivre ? Si on répond oui à ça, Jésus nous rappelle, ok, m'aimer, c'est m'obéir. Jean 14, versets 15 et 21, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Et celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui l'aime. Et Jésus rappelle aussi que l'appeler Seigneur, Seigneur, n'est pas suffisant pour entrer dans le royaume des cieux. Mais il faut accomplir la volonté de son Père. Matthieu 7, 21. Donc si on aime Jésus, on doit lui prouver notre amour par l'obéissance, c'est un principe de la vie chrétienne, hein, et notamment, particulièrement, l'obéissance à la mission qu'il nous a donnée, un peu comme sa dernière volonté avant de partir. Alors si aujourd'hui on n'est pas en train de faire des disciples qui font eux-mêmes des disciples, on démontre qu'en fait on ne prend pas suffisamment au sérieux les commandements de Jésus et que par définition on ne se comporte pas encore comme des disciples nous-mêmes. Et je ne crois pas que ce soit une question de moyens, le fait qu'on fasse des disciples. Ce n'est pas le manque de moyens qui nous empêcherait de rentrer dans la mission. Vous savez, si on réfléchit aux premiers croyants, leur mission, elle semblait impossible. Déjà, sur le plan pratique, à l'époque, c'était difficile de bousculer les croyances déjà bien ancrées. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'imprimerie, il n'y avait pas Internet pour communiquer l'Évangile. Et puis, d'un point de vue légal, les autorités de l'époque leur interdisaient de parler au nom de Jésus. Et d'ailleurs, plusieurs vont mourir parce qu'ils ne vont pas obéir à ça. À cette époque, voici ce que déclaraient malgré tout ça leurs opposants. Actes 5, 28. « Voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. » Je me dis, on devait en parler de partout. Et dans Actes 17, verset 6, leurs opposants disent « Ces gens ont bouleversé le monde. » Je me dis, ils n'avaient pas beaucoup de moyens et ils ont pu faire de très grandes choses. Et je crois qu'on a besoin de réaliser, et encore une fois, je vous le redis, je n'ai pas du tout l'intention de vous culpabiliser avec ça, parce que moi, pendant plus de 25 ans de vie chrétienne, je ne l'ai pas considéré. Par contre, le jour où j'ai ouvert les yeux là-dessus, ça m'a fait mal. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est question de réfléchir comment répondre à cet ordre de mission. Et je ne sais pas si pour vous, ça paraît naturel et normal de se sentir en mission. Moi, pendant longtemps, je viens de vous le dire, hein, je le négligeais. En fait, je me disais, l'Église, c'est des dizaines de personnes. Et puis au milieu, il y a le missionnaire. Ou l'action missionnaire qui a lieu quelques jours dans l'année. Et je pensais en fait que seul le missionnaire assurait la mission. Et nous, les autres, on était là pour remplir l'Église. Mais c'est tout. Juste pour l'alimenter. Mais ce n'est pas ce que dit Jésus. Hein. Jésus n'a pas dit qu'il y aurait des chrétiens. D'ailleurs, Jésus n'a jamais parlé de chrétiens. Hein. Il n'a pas dit qu'il y aurait des chrétiens et des disciples en mission. Jésus n'a parlé que de disciples. On en parlait hier avec les jeunes. Hein. Quand on dit chrétien, en fait, à l'origine, ce mot, c'est un synonyme de disciple. On regardait les disciples vivre et on les a appelés chrétiens. Donc être un chrétien, c'est être un disciple. Et un disciple, par définition, il a un maître et il essaye de lui ressembler. Et il obéit à ce qu'il lui dit. Et vous savez, souvent, une des erreurs fréquentes que je constate, et que j'ai d'ailleurs aussi beaucoup pratiquée, c'est que quand on veut s'investir dans la mission qu'on appelle assez facilement évangélisation, hein, on simplifie parfois la compréhension. Parfois, on pense qu'on a réussi la mission quand on a dit à quelqu'un « Je suis chrétien », un collègue de travail on l'a dit « Je suis chrétien », viens un dimanche à l'église, et qu'il est d'accord quand on lui donne une Bible et qu'il l'accepte. Là, on rentre chez nous, on dit « Yes, j'ai fait ce que Jésus me demandait ». Moi, pendant des années, quand je faisais des camps, des colos, quand à la fin d'une colo, un enfant me disait « Bon, ben à la rentrée, je vais venir à l'église. J'étais trop content. Mais c'était bien, hein? Mais je me disais, c'est bon, j'ai fait mon boulot, je peux continuer. Mais en fait, on se trompe. C'est pas ça la mission. En tout cas, ça ne suffit pas. Et quand on fait ça, ben, on se décharge un petit peu, comme si on avait coché une case. Et en tout cas, ça ne suffit pas. Ce n'est pas la mission. Jésus n'a jamais dit « amener des gens à l'église ». D'ailleurs, il a même dit l'inverse. Il a dit « allez ». Il n'a pas dit « amener ». Il a dit « allez et faites des disciples ». Alors évidemment, hein, un disciple est appelé à venir à l'église. Et l'église est bien le lieu où on va conduire et former les nouveaux disciples. C'est là qu'ils seront enseignés. Mais on ne peut pas faire un raccourci si rapide. Et on ne peut pas penser non plus que seuls les pasteurs, les missionnaires ou les anciens sont responsables de la mission. Et que nous, nous ne serions que des rabatteurs. Des gens qui ramènent, puis on dit, allez tiens Jean, vas-y, maintenant vas-y. Présente-lui l'évangile en détail, convertis-le. D'ailleurs, si vous analysez la manière dont vous êtes venu à Christ, peut-être qu'on n'est pas très nombreux à l'avoir été par l'intermédiaire d'un pasteur. Peut-être c'est un témoignage, peut-être c'est un ami, peut-être c'est une émission, une vidéo, différentes choses. Vous savez, les 11 premiers disciples de Jésus, quand il leur a dit « allez et faites », ils ont obéi. Ils sont partis, ils ont commencé à faire des disciples. Qui ont fait des disciples ? Qui ont fait des disciples ? Et un jour, vous en avez rencontré un. Alors peut-être qu'il ne l'a pas fait de manière parfaite, mais c'est vraiment un travail en cascade. Et nous, on doit, à notre tour, faire aussi des disciples. Alors, c'est écrit, c'est vrai, mais honnêtement, c'est pas si facile que ça. Quand on se dit, je suis d'accord, Jésus l'a dit, je vais devoir le faire, je pense même que ça peut faire peur, s'engager dans la formation de disciples. Et quand on se sent justement pas capable de faire des disciples, ça peut être culpabilisant à nouveau. Et si la mission peut nous mettre une certaine pression, ce qui est rassurant, c'est qu'on a besoin de réaliser de quelle manière Jésus a encadré cet ordre. C'est vrai qu'il dit « allez, faites des disciples, baptisez et enseignez ». Mais avant ça, il dit « j'ai reçu les pleins pouvoirs au ciel et sur la terre ». Ensuite, il dit « allez » et il termine « soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde ». Jésus nous rappelle que celui qui a toute autorité, vraiment le big boss de tout, il a dit « j'ai reçu toute autorité », nous accompagne, qu'il est avec nous et qu'il le sera toujours. Et j'aime beaucoup dans ce passage, il ne dit pas « jusqu'à la fin de votre vie, mais jusqu'à la fin du monde ». Moi, ça me fait dire « le jour où je vais mourir, Jésus va me dire « je suis toujours là ». Et on va attendre que tout le monde soit là, jusqu'à la fin du monde. Et il dit qu'il nous accompagne, qu'il est avec nous, et qu'il sera avec nous toujours. Et il dit ça au moment où il dit « allez ». Et je trouve que c'est assez, ça peut nous faire du bien de se dire ben, « je sais que Jésus sera toujours avec moi ». On peut lire ce passage et dire « ah, c'est bon quand même de s'en rappeler ça, c'est rassurant ». Mais on doit réaliser que le jour où Jésus a dit « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est au moment où il l'a dit « allez et faites des disciples ». On ne peut pas juste se satisfaire que Jésus est avec nous tous les jours, mais on doit réaliser qu'il a dit ça le jour où il a envoyé ses disciples en mission. Alors certainement, parce que c'est là qu'on a le plus besoin de lui. Et puis évidemment, je ne veux pas vous faire penser, et je ne veux surtout pas dire que quand on est en dehors de la mission, il n'est pas avec nous. Jésus a dit « je suis tous les jours avec vous ». Donc c'est une certitude, il est là tous les jours. Mais c'est une manière de nous dire « allez, ne vous inquiétez pas, quand vous irez, rappelez-vous que de toute façon, je suis toujours avec vous. Et quand vous irez, vous aurez particulièrement besoin de moi. » Du coup, si on réalise ça et si on le croit, on va devoir obéir de manière intentionnelle à cette mission. Et du coup, on ne va pas juste s'engager dans l'évangélisation, mais dans la mission qui comprend l'évangélisation. Ça veut dire que même s'il est toujours aussi important de s'investir dans la proclamation de l'évangile, on l'a vu tout à l'heure avec ce que disait Paul, c'est indispensable, Alors, il faut certainement bien s'y préparer. Il faut aussi ensuite penser à ce qu'on fera après. Qu'est-ce qu'on va faire quand les gens vont accepter la bonne nouvelle? On va faire une campagne, on va sortir, il y a vie dans la ville, on va partager l'évangile. Les gens vont dire, ok, ça m'intéresse. Il faut avoir réfléchi à qu'est-ce qu'on va proposer pour la suite. Qu'est-ce qu'on va, par notre intermédiaire, ou peut-être par l'intermédiaire de l'église, peut-être une église autour de chez eux, qu'est-ce qu'on va proposer? Parce qu'après l'évangélisation, il faut une prise en charge pour assurer l'intégralité de la mission. Faire des disciples. C'est le schéma que l'on voit avec les tout premiers chrétiens. En acte 2, il y a la Pentecôte, et puis il y a des gens qui sont réunis devant Pierre, et là, Pierre prêche l'évangile. À la Pentecôte, la prédication de Pierre a amené 3000 conversions. Mais si vous lisez le texte, il n'a pas l'air extraordinaire. C'est un texte presque historique. Il parle un peu de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, il dit que Jésus est venu, il dit ben, « vous l'avez tué, mais c'était le Messie, et maintenant vous pouvez l'accepter ». Ça paraît presque simple, mais 3000 personnes sont touchées par ce message, se repentent, se font baptiser et reçoivent le don du Saint-Esprit. Et Pierre dit, c'est la suite logique de l'évangélisation. Mais ça continue, le texte continue. Après ça, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient ensemble. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un accord commun au temple et dans les maisons. Versets 42, 44 et 46 d'acte 2. En fait, ils ont commencé la première école de disciples, dans laquelle ils persévéraient ensemble, ils étaient enseignés, ils se formaient, et ils assuraient la mission au-delà de l'évangélisation. Ce n'était pas que de la proclamation de l'évangile, les gens étaient formés, préparés, et on voit que ça porte du fruit. Verset 47, « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Et je me permets de rajouter, parce que la recette était bien respectée. Parce que l'évangile était annoncé, et quand l'évangile était accepté, les gens étaient accompagnés, formés, et du coup, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, se préparer pour l'évangélisation, évidemment, c'est essentiel. Connaître clairement le contenu de l'évangile, trouver une bonne méthode pour pouvoir bien le transmettre, c'est important. Parce que l'évangélisation va être la première étape dans la mission. Mais pas sans imaginer la suite et organiser la suite pour assurer la mission dans son ensemble, qui va naturellement engendrer la pérennité. C'est ce que dit par exemple Paul à Timothée, je crois que c'est dans la deuxième lettre, chapitre 2, verset 2, « Tu as suivi mon enseignement, il t'a été confirmé par les attestations de nombreux témoins, ce que tu as ainsi appris, transmets-le à des hommes fidèles et dignes de confiance, qui soient capables, à leur tour, d'en instruire d'autres. Tu as été instruit, tu as été enseigné, maintenant fais-le avec d'autres, et assure-toi que ceux avec qui tu le fais vont le faire avec d'autres. » Bon, c'est juste le schéma de Jésus. Hein. Alors, si on réalise qu'effectivement, c'est ce que Jésus attend de nous, la question d'après, ce serait dire, comment on fait? Si je suis d'accord et si je décide de le faire, comment on fait? Quelle est la meilleure technique? Mais peut-être que la mission, avant du faire, c'est peut-être d'abord du être. C'est vrai que Jésus a donné le cadre en Matthieu 28, « Faites des disciples et les enseignez ». Mais avant ça, il avait adressé une prière à son Père dans Jean 17. Et dans cette prière, on retrouve les éléments qui caractérisent ce que doit être un disciple en lien avec la mission. C'est en Jean 17, de 1 à 26, je vais prendre que des extraits, je vais vous les lire. Mais vous voyez à quel moment de l'histoire de Jésus se passe Jean 17? Ouais, dans le jardin, à quelques heures de la crucifixion. C'est un petit peu le dernier rendez-vous, la discussion qu'il a avec son Père. Il lui adresse cette prière. Et au début de la prière, au verset 2 et 3, il dit « Tu as donné pouvoir à ton Fils sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc Jésus commence sa prière en s'adressant au Père, en mettant en avant la relation intime et personnelle. Vous savez, quand on parle de mission, évidemment, on pense au fait que les gens soient sauvés, on parle du salut éternel, de la vie éternelle, et là Jésus pose la base, il dit « la vie éternelle », donc le sujet de la mission, hein, ce qu'on veut pour les gens, « la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le Père, et de connaître Jésus. » C'est ce qu'il dit à ce moment-là, la connaissance de Jésus-Christ. Et Paul, qui était un missionnaire par excellence, hein, lui, il avait bien compris, en Philippiens 3:10, il dit « la seule chose qui compte pour moi ». Alors juste, Paul a quand même dit un jour qu'il n'y a qu'une chose qui comptait pour lui. Alors on pourrait se dire c'est quoi ? C'est évangéliser, c'est traverser le monde. La seule chose qui compte pour moi, c'est de connaître plus profondément la personne de Christ. D'entrer toujours plus dans son intimité, afin de comprendre clairement les aspects les plus merveilleux de son être. Le connaître lui intimement. C'est la première étape de la mission qui, au-delà d'affermir notre relation avec Dieu, est aussi là pour nous préparer à parler de lui. La première étape de la mission, c'est d'être connecté à Jésus et de le connaître. Parce que notre relation avec lui est plus importante que notre service pour lui. C'est ce que Jésus a dit un jour à Marthe, qui le servait. Elle était en train de le servir, elle s'agitait, elle dit « Dis à ma sœur de m'aider pour que tu sois un peu mieux servie. » Enfin, j'imagine que c'est pour ça qu'elle disait ça. Hein. Mais Jésus lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Et si, selon Jésus, une seule chose est nécessaire, toutes les autres sont secondaires. Pas forcément inutiles, hein, mais toutes les autres sont secondaires, donc même le service que faisait Marthe pour Jésus. Et je pourrais dire même le service que je fais à JPC, même le service que tu fais à Espérance. Ils sont secondaires par rapport au seul nécessaire. Parce que Jésus lui-même l'a dit, hein, il a dit « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup. » Et là, Jésus est en train de servir Marie à ce moment-là. Et il conclut en disant « Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas ôtée. » Donc Jésus ne dénigre pas le service, mais il dit que le service dépend toujours d'abord de notre relation avec lui, qui est le seul nécessaire. Donc peut-être avant de se lancer dans la mission, réalisons qu'elle dépend avant tout de notre relation avec Dieu. Et que si notre relation avec Dieu, notre connaissance de la personne de Jésus n'est pas notre priorité, alors on ne pourra pas servir efficacement. On ne pourra pas accomplir la mission efficacement. En fait, on ne pourra pas former des disciples si on ne connaît pas bien celui qui est le maître de tout disciple. Donc la première étape dans la mission, c'est se poser la question « Où j'en suis dans ma relation avec Jésus ?» Comment je considère sa parole ? Est-ce que je prends du temps pour lui parler ? Est-ce que je lui soumets ma vie ? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent perturber la relation ? Et vous savez, notre relation ne peut se développer avec lui que dans un cadre où la repentance est omniprésente. Si on a un péché non confessé, peut-être un problème qui n'est pas réglé avec Dieu, peut-être une relation altérée avec un frère ou une sœur à l'église, ou alors peut-être vous vous souvenez d'une mauvaise habitude que vous avez pratiqué récemment, eh bien on doit le régler, on doit se repentir pour pouvoir à nouveau rentrer dans une vraie relation avec lui pour nous mettre à son service. Vous savez, Dieu disait à son peuple en Ésaïe 59, verset 2, « Ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. » Le mot est fort, hein, c'est séparation. « Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » Tout péché non confessé nous sépare de Dieu et vient perturber la relation. Mais heureusement, on lit 1 Jean 1, 9, « Si nous reconnaissons que nous avons péché, et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu, Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. La repentance rétablit automatiquement la relation. Ça, c'est la première étape. On revient à la prière de Jean 17. Jésus vient de dire, la vie éternelle, c'est te connaître, entretenir la relation, et on doit commencer par ça. Puis Jésus continue dans sa prière au verset 9 à 11, il prie pour ses disciples. C'est pour eux que je prie, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Jésus est en train de dire, je te prie que mes disciples, entre eux, soient aussi unis que toi et moi, Père, nous sommes unis. C'est ce qu'il dit, hein? Qu'ils soient un comme nous, nous sommes un. Voilà, des fois je me dis, est-ce que humainement c'est possible? Est-ce qu'entre nous on peut être aussi unis que le Père et le Fils le sont? Mais c'est ce que Jésus demande à son Père dans cette prière. Et là il met un accent sur l'unité qui apparaît comme un enjeu essentiel dans ce que Jésus demande à son Père. Jésus parle de ses disciples, de ceux à qui il va bientôt confier la mission, hein, et là il dit, Père, je te demande que tu les gardes pour qu'ils soient unis entre eux, qu'ils soient un. Je pense encore une fois qu'à quelques heures de sa mort, Jésus a bien pesé chacun des mots qu'il a dit dans cette prière. Et là, il insiste sur cette notion d'unité qui est évidemment liée à l'amour fraternel. Jésus d'ailleurs a dit à ses disciples en Jean 13, 35, « Ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. » Autrement dit, moi je le comprends comme ça, hein, la meilleure technique d'évangélisation, faire connaître Jésus, c'est s'aimer entre disciples. C'est lui qui l'a dit, hein. Tout le monde saura que vous êtes mes disciples si vous vous aimez. Donc c'est peut-être là qu'on devrait mettre le plus d'énergie. C'est donc bien connecté au témoignage et à la mission. Et puis troisième point dans cette prière, Jésus après avoir prié pour ses disciples, il prie pour le monde. La cible de la mission. Verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Donc dans quelques jours il va leur dire allez. Hein. Verset 20 et 21, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Je te demande qu'ils soient tous un pour que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et qu'ils croient. Et là on a la finalité de la mission, pour que le monde croit en Jésus et soit sauvé. Et dans cette prière, en fait, tout part de Dieu, de la relation avec lui, vers les disciples, avec un accent sur l'unité, puis vers le monde. Au lieu de, comme on le fait parfois, sortir, évangéliser et essayer d'amener les gens à l'église pour leur faire rencontrer Dieu. Mais dans cette prière, on voit qu'on doit d'abord être unis à Christ, être unis les uns aux autres avant de nous tourner vers la mission afin que d'autres soient ensuite unis à nous et à Christ. Du coup, notre relation sérieuse, intime, profonde avec Dieu, puis notre amour fraternel, notre unité sont des préalables à la mission. Si les deux premiers points, parmi ces trois points, donc les deux premiers points, la relation et l'unité, sont négligés, le troisième point, vers le monde, la mission, risque de n'être que de l'activisme. J'ai l'impression, alors que Jésus pourrait nous dire ça, j'espère que je ne dis pas une bêtise, hein, mais j'ai l'impression qu'il pourrait nous dire, si tu n'es pas connecté à moi, si tu n'es pas intime avec moi, et si tu n'es pas uni avec tes frères et sœurs, alors ne va pas parler de moi. N'essaye pas d'attirer les gens vers un Dieu dont tu ne donnes pas la bonne image. Tu vas faire plus de dégâts qu'autre chose, tu vas être un mauvais témoignage. C'est certainement que la mission donnée par Jésus doit nous interpeller d'abord sur notre relation avec lui, sur notre unité entre nous, et ensuite, bien sûr, elle doit nous pousser à nous engager dans le concret de ce qu'il attend de nous. Et on va voir dans la deuxième partie, on va voir quelques éléments pour justement comment rentrer dans l'évangélisation, quelques conseils à l'évangélisation. Mais juste avant d'y passer, on aura sûrement un temps de pause entre les deux, Je voudrais juste qu'on réfléchisse à dans quelle attitude nous allons être quand nous allons rencontrer des gens et partager l'Évangile. Quand on réfléchit à la mission, est-ce que la mission, c'est pour moi une obligation, un contrat à remplir, une obéissance, un service volontaire, un privilège peut-être ? En fait, ce qui va nous permettre de répondre à cette question, c'est de réaliser qui nous sommes quand nous sommes envoyés en mission. Vous savez, un serviteur, il fait son service. Un esclave, il se soumet à tout. Un mercenaire, lui, il fait le minimum et que pour de l'argent. Un salarié, il fait pour être payé. Du coup, quelle est notre identité quand on est dans l'évangélisation ? Jésus le dit, Jean 15, versets 15 et 16, il dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Et Paul, en Galates 4, en les versets 4 à 7, nous dit « Dieu envoya son Fils pour faire de nous ses enfants adoptifs. Par lui, nous devions être institués dans tous les droits et privilèges de fils. Nous sommes bien des fils. Toi donc, mon frère, tu n'es plus un esclave, un serviteur subordonné. Tu es un enfant libre, un fils, et en tant que fils, tout l'héritage t'appartient. » Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et dans 1 Corinthiens 3:9, Paul dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Certaines traductions disent même collaborateurs avec Dieu. Du coup, dans notre service, quand on réfléchit à la mission, dans notre évangélisation, selon ces paroles, nous sommes des amis de Jésus, des enfants et des collaborateurs de Dieu. Et dans la mission, nous ne travaillons pas pour un patron qui nous rémunère en fonction de nos performances, mais à côté de notre Seigneur qui nous invite à participer à sa mission. Et je crois que c'est important de réaliser notre identité d'ami de Jésus, de collaborateur de Dieu dans notre service, parce qu'on va transmettre aux autres l'image de Jésus selon ce qu'il représente pour nous, selon ce qu'on perçoit de lui et que l'on vit avec lui. Si Jésus est pour moi un juge, en fait, je vais transmettre un juge. Si j'ai tout le temps peur qu'il me tape sur les doigts quand j'ai fait une bêtise, quand je vais en parler à quelqu'un d'autre, je vais lui présenter Jésus, mais je vais lui dire « Fais attention, dès que tu fais une bêtise, il est là, il va prendre tes doigts, il va taper dessus. » Et il y aura toute la culpabilité qui va aller avec ça. Si pour moi, Jésus, c'est une connaissance, ben, je vais le présenter comme une connaissance. Je ne pourrai pas très bien en parler. J'aurai quelques éléments à dire sur lui. Si c'est un ami, alors je vais transmettre un ami. Si c'est mon roi, mon seigneur, mon Dieu, alors les gens percevront qui il est pour nous. C'est pour ça que notre relation avec Dieu, notre amour et notre connaissance pour Jésus sont déterminants dans la mission. Je crois que c'est vraiment important de réaliser qui nous sommes quand nous sommes appelés et que nous partons en mission. On va faire la petite pause là, et puis on verra après, on va se concentrer sur la première étape de la mission, l'évangélisation, parce que c'est par ça qu'il faut commencer, et on verra différents conseils pour l'évangélisation et une synthèse de ce qu'est l'évangile. Ok ?